bonsoir. Nous reprenons l'antenne après des années de silence. Nous revenons avec plus de sagesse, plus de maturité et avec surtout cette envie de partager avec vous ce moment spécial dans l'année puisque c'est le printemps. Nous prenons l'antenne aujourd'hui, 21 mars. C'est l'équinoxe. Alors l'équinoxe, on va en savoir plus pendant l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? En termes scientifiques, spirituels, en termes journalistiques, en termes politiques, l'équinoxe. Alors en fait, l'équinoxe, c'était effectivement hier, si j'ai bien compris, dans nos régions. Alors je ne sais pas d'où vous nous écoutez. Il faut savoir qu'Into the Wild, depuis les années que nous émettons, nous avons des auditeurs qui sont partout dans la planète. Ils ont bien compris que nos messages n'avaient pas de limites, pas de frontières, et qu'on avait une portée alors intemporelle, ça c'est sûr, et d'autre part une portée de niche, parce qu'on est, à l'avant-garde, on espère, d'une certaine forme de culture qui va survivre à la fin du monde, puisque c'est à ça qu'on travaille, et peut-être qu'on apprendra encore ça aujourd'hui. Donc, il faut savoir que l'équinoxe est ce qui porte cette émission, et on va, à travers nos invités, alors nous avons une équipe réduite, restreinte aujourd'hui, une équipe intime dans laquelle on va renouer avec les racines de Into the Wild Jex, des racines où on n'est plus dans le divertissement, on n'est pas dans l'info-entertainment, on va aller au fond des choses, on va essayer de vous donner un message clair et néanmoins concis. Et alors avec nous, nous avons de nouveaux animateurs. Nous allons faire un tour de table dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors du coup, c'est qui commence?
Du coup, ça va être mon tour, je pense.
Voilà, exactement. Donc, Eric, le survivaliste.
Président des survivalistes de Jex et responsable qualité dans une marque qu'on taira le nom, puisqu'on n'a pas le droit, d'horlogerie de luxe. Donc, une de tes questions, c'était qu'est-ce que l'équinoxe? Qu'est-ce que l'équinoxe d'un point de vue scientifique? Donc, d'un point de vue scientifique, l'équinoxe est tout simplement la moitié de 24 heures qui est sous le jour et l'autre moitié de 24 heures qui est sous la nuit, donc 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et on a bien sûr deux équinoxes par an.
Et du coup, ça vient du latin ou du grec? Alors on dit equinoce, equinoces, c'est quoi la racine?
C'est du latin, equi, qui veut dire égal. Et ensuite, donc équinoxe, noxé, je pense qu'il veut dire tout simplement la nuit, mm-hmm. où la durée de la nuit est égale à la durée du jour. Voilà, la durée de la nuit est égale à celle du jour, comme on a l'équinoxe donc en automne, qui nous fait exactement la même chose lorsque les jours raccourcissent.
Donc on a bien deux équinoxes par an, et Eric va nous accompagner avec son angle scientifico, légalo, survivalo.
Survivano de luxe.
De luxe. Et alors à côté, nous avons Daniel qui va se présenter. Alors je pense pas que tu vas rivaliser sur le même territoire qu'Eric.
Non, je ne pense pas du tout. Mais c'était très sympa, Eric. Merci de toutes ces informations. Je vais dormir en rêvant de l'équinoxe ce soir. C'est sympa. Moi c'est Daniel, première fois ici, comme toute première un peu le trac, mais comme toute première équinoxe quoi. Donc prof de théâtre depuis 20 ans sur Divonne, sur Suisse, enfin dans le pays gessien, et puis plein de belles choses à raconter, j'attends de voir ce que les autres vont dire avant de prendre la parole.
On continue ce tour de table et on arrive alors à quelqu'un, Becca, qui vous connaissez déjà si vous avez eu la chance d'écouter nos émissions précédemment. Becca, bienvenue à nouveau. Est-ce que tu as compris du coup ce qu'était qu'une équinoxe?
Merci, bonsoir tout le monde. Je parle en anglais parce que c'est un peu difficile maintenant. I think that for me, after the scientific definition, which was beautifully explained, I think, by Eric. For me, it's symbolic for a new start. We're very close to when we turn the clocks back, we would say in English. Spring forward, fall back. So we're turning the clocks forward and it's a new chance to reset and a new chance to reevaluate what's going to happen for the rest of the year. So I like this time of year because it's a new beginning.
Et alors, pour terminer ce tour de table, donc nous sommes cinq aujourd'hui pour parler de cet équinoxe de ce printemps. Nous avons Stéphane qui, alors lui, aborde ça sous un angle. Alors, Stéphane était dans nos émissions précédemment parce qu'il nous a introduit aux jeunes. aux jeunes. Alors non pas voilà le jeune où on a faim. Hein, pas, tu peux nous introduire aux jeunes. Enfin, on discutera plus tard. Mais le jeune où on a faim déjà. Et du coup, t'es prêt là, t'es complètement alerte et t'as été reseté quelque part. Tu peux vivre une nouvelle période, ce printemps qui s'annonce, et tu l'accueilles avec plaisir.
Alors oui, tout à fait. Surtout que j'en refais un petit de 3 jours dans le, pour accueillir le printemps aussi. Même si à la base je ne l'ai pas pris sous cet angle, j'ai juste un petit truc que j'aimerais soigner et donc booster les défenses immunitaires avec ça. Et donc voilà.
Alors, l'équinoxe, le printemps, on est. Donc, il y a un deuxième équinoxe, c'est l'équinoxe d'automne. Alors, l'équinoxe d'automne, je suis sûr qu'on se dit aussi que c'est une chouette chose. Hein. En fait, chaque moment astronomique, on en profite pour dire que c'est un renouveau et que ça va être un signe de lumière et non pas de désespoir. Hein. Donc, la prochaine émission qu'on fera à l'équinoxe d'automne, on dira aussi que c'est bien, même si les jours raccourcissent. Hein. Donc, il y a toujours un truc bien à trouver dans tout. Non mais c'est vrai, hein, c'est un peu pour ça que c'est pour ça qu'on se creuse le cerveau quand même. Hein. C'est pour arriver à trouver de la lumière. Alors donc le printemps et puis si on regarde dans l'actualité récente, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles dans les dernières semaines qui ont passé. Alors nous qui voyons ça depuis le cosmos interstellaire avec toute notre sagesse intemporel, on peut pas vous dire toute la vérité, on peut pas vous prédire l'avenir. On va vous laisser un peu mijoter comme ça dans l'inconnu. Mais l'instabilité, mais il y a quand même des facteurs de stabilité, c'est qu'on a deux présidents de pays très puissants qui ont été alors réélus ou renommés ou confirmés à la tête de leur système. Et je suis pas très sûr qu'on soit dans le printemps là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
on peut voir le printemps comme une page qui se tourne, comme le disait si bien tout à l'heure Rebecca. C'est-à-dire que d'un point de vue symbolique, c'est une renaissance, un renouveau, un changement, mais pas tout changement est bon. Il n'y a qu'à voir pour Nicolas Sarkozy. Ce changement aujourd'hui, du passage donc de l'hiver au printemps, n'est pas au top pour lui. Par contre, une réélection d'Angela Merkel, par exemple, pour elle, c'est le top. Et après, à voir si le peuple est d'accord avec cette idée et cette joie qu'elle doit partager avec les siens. Mais est-ce que le printemps doit automatiquement être symbole de bien ? Ou est-ce qu'il peut être aussi symbole de mal ? Comme tu le disais si bien, c'est pas parce qu'on sera à l'équinoxe d'automne en 6 mois que ça sera mauvais parce que les jours raccourciront. Ça sera bien parce qu'il y aura des champignons, par exemple. Ça sera bien pour les chasseurs parce qu'ils iront chasser. Ça sera bien pour les personnes qui aiment balader parce que les couleurs dans la forêt seront magnifiques. Et la personne qui préfère le printemps te dira « Oui, mais non, moi je préfère quand c'est les fleurs qui viennent et tout, avec les primevères, les petites pâquerettes et les marguerites qui arrivent par la suite. » Donc chacun trouve une beauté dans quelque chose. Et chacun trouve son compte.
Alors Daniel, tu es au contact de la jeunesse dans notre pays de Gex, puisque tu as monté une école de théâtre il y a maintenant est-ce que c'est bien longtemps, enfin plus d'une dizaine d'années.
C'était dans un monde fort fort lointain, ouais. Donc c'était beaucoup d'équinoxes passés, revus et corrigés. Donc 20 ans, oui, l'équinoxe théâtre aussi existe, puisque à chaque fois c'est une renaissance. Et les mauvaises herbes deviennent des belles fleurs, et les belles fleurs deviennent des beaux personnages et des belles histoires. Et ces belles histoires font rêver les gens ou les remettent en question. Et quand ils les remettent en question, c'est comme nos hommes politiques, ils devraient se remettre un peu plus en question sur différentes choses. Bon, ils ne passent pas beaucoup de temps en prison puisqu'ils sont relâchés excessivement vite pour fêter le printemps. Mais donc ils ont beaucoup d'élèves, beaucoup de gens qui les soutiennent ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ce printemps et cette année 2018, c'est une année de reconstruction et de renaissance pour beaucoup de gens et de prise de conscience surtout. Cette prise de conscience, bien entendu, chacun met un peu sa sauce, mélange différentes lectures, lisent des magazines, leurs horoscopes, mélangent un peu tout parce qu'ils essayent de trouver des points de repère pour se rattraper à différentes choses, pour se sentir heureux. Il faut arrêter de penser à une forme d'individualisme et plutôt par penser en collectivité parce que la nature, elle est collective, hein, elle est pour tout le monde.
Et non, mais t'as pas fini. Hein, parce
ah
que,
bon
Et moi, il y avait une question qui m'intéressait, c'était que quand on pense au printemps de l'être humain, Moi, je pense à l'adolescence, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Dans le sens où, à l'adolescence, à un moment donné, on est... ça bourgeonne.
Voilà, c'est vrai, mais... bourgeonne.
Et toi, tu as la chance d'être en contact avec ce monde de très près, parce que tu es dans l'intimité en, en ayant des cours de théâtre pour adolescents, j'imagine.
Et d'enfants, oui. C'est des élèves qui vont de 3 ans et demi à 100 ans. Donc, j'ai toutes les tranches d'âge et toute forme de maturité devant moi. Et un bel assemblage de fleurs et de plantes, des fois empoisonnées, il faut le dire, mais de tout poison sort toujours une bonne chose.
Et alors, du coup, est-ce que tu sens... on dit que c'est le printemps, parce que spatialement parlant, scientifiquement parlant, c'est l'équinoxe, mais est-ce que tu as déjà senti, tu sens chez tes élèves l'appel...
L'appel de la nature, oui.
L'appel de la nature.
Oui, ils sont tous un peu excités par tout ça. Et je pense que les enfants sont plus dans les énergies qu'ils reçoivent que les parents. J'adore les parents, mais c'est différent. Ils perdent un peu leur âme d'enfant et ils sont trop bousculés par différentes choses. Que les enfants travaillent toujours en fonction de leur énergie, de leurs émotions. Et on sent en ce moment, bon, le printemps, la bise surtout, que ça les excite, ça les énerve, ça, ils ont envie de faire plein de choses. Donc c'était des cours aujourd'hui très océaniques, on va dire. Voilà, ils étaient très, il n'y avait pas de marée, ça venait, ça revenait, et ils étaient très créatifs. Il faut penser surtout que les éléments amènent beaucoup de créativité aux gens. Et c'est pas le calme qui permet de créer. C'est les émotions, elles viennent de bruit, d'énergie. Et en ce moment, si ce printemps est différent peut-être de celui des autres, enfin ce début de printemps, parce que les pauvres primevères, elles ont pris froid depuis quelques jours et quelques mois, c'est peut-être le fait de dire, on va peut-être vivre autrement, on aura peut-être différentes formes de printemps, différentes plantes. Je ne dis pas qu'à Divonne ou dans le Pays Gécien ou à Gex, il va y avoir des palmiers qui vont pousser, mais c'est juste se dire, la vie continue et notre printemps, on peut se le créer soi-même.
Alors là-dessus, est-ce que dans la culture anglaise, chez les adolescents, est-ce qu'il y a des endroits, il y a le spring fever. Alors c'est très connu surtout pour les États-Unis, je crois, où il y a le spring break. En France, il n'y a pas de spring break comme ça où tout le monde va se foutre à poil dans des hôtels en buvant de la vodka.
Non. Au Mexique.
Les vacances s'appellent printemps, non ? L'autre vacances. En avril, s'appelle.
C'est les vacances de. Mais
c'est aussi, au lycée, ça s'appelle printemps.
On appelle aussi ça les vacances de printemps.
Ouais. Mais in the UK, we don't have a spring break like the US. It's we still have our holidays based on the Christian calendar, so it's still very much the Easter break. Everything is focused around the Easter celebration, but it's still for teenagers, I guess. I mean, they're the British teenagers that I know because they live in the UK and the weather is so bad. I don't think they notice the change in the air in the same way that you might do in France. I've noticed the change already.
Mais alors toi qui es prof de maths aussi, donc tu es en contact avec des adolescents aussi, pareil.
Oui.
Est-ce que tu sens aussi chez les filles et chez les garçons le printemps qui leur donne envie de plus aller à l'école de regarder. Non, parce que c'est une émission où on parle beaucoup d'érotisme, quand on peut. On peut pas tout le temps. Hein.
La précision est importante.
On peut pas tout le temps, on peut pas mettre de l'érotisme partout. Hein. Mais là, quand même, est-ce que tu sens que l'érotisme monte dans tes classes ou pas? Pas encore. Hein.
Au lycée, collège, Farnivaltaine, non. Because I've noticed in my experience in the French schools, it may be different as a theatre teacher because maybe students can be quite creative. Students find it difficult to let go in class with me because they are used to being very much told where to sit and be very quiet in their lessons. So I have really tried to let them be a bit more creative and have conversations with each other And there, maybe sometimes they let go and indicate that perhaps there's some kind of adolescent, teenager, hormonal situation happening. But it's difficult to find because they are controlled very much in the, certainly in the lycée and the college that I teach in. I don't know if that's everywhere in France, but they're very studious and serious.
Et Stéphane, qui est avec nous, a été éduqué, élevé dans un cadre privé. Donc, tu étais à l'école privée. Alors, peut-être que tu peux donner des détails, hein, mais pour faire écho à ce que disait Becca, est-ce que toi aussi, dans ton adolescence, tu t'es senti cadré par des règles et tu as eu du mal à... Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas, que c'était une bonne chose maintenant avec le recul et la sagesse qui fait partie de tes bagages aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors en fait, mes deux années de lycée, mes deux seules années d'ailleurs de lycée, puisque ça a été mon année de première et terminale que j'ai passée dans le privé, ont été les deux meilleures années de ma scolarité. En fait. C'était un cadre qui n'était pas envahissant, et j'étais en plus en interne. Donc je vivais la semaine sur Avignon et le week-end à Aix-en-Provence, chez ma marraine. Donc c'était vraiment un cadre très agréable. Très agréable. Alors après, est-ce qu'au printemps on se sentait différent ? Non. Maintenant, si je peux me permettre de rebondir sur deux petites choses, le printemps chinois, lui, a commencé déjà il y a bien longtemps, puisque c'était début février. Sachant que chaque saison chinoise est entrecoupée d'une intersaison de 18 jours, et parce que chaque saison en Chine a un élément particulier. Donc chaque saison est coupée. L'intersaison, par exemple, correspond au bois, et elle correspond également à un organe du cœur, à un organe du corps. Donc l'hiver, par exemple, c'est l'eau et l'organe, c'est les reins, ce qui est intéressant puisque c'est justement les reins qui filtrent les liquides de notre corps, mais pas que. Le printemps, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus si c'est l'air ou le métal. Sachant qu'il y a 5 éléments dans la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vrai que quand on demande à des Chinois qui ont l'occasion d'être en Europe, ils vous disent qu'en effet, les saisons sont en avance en Chine, par exemple. Donc après, je ne sais plus quand est-ce qu'on nous montre généralement, par exemple, à la télévision, les premiers cerisiers japonais, mais il me semble que c'est avant maintenant, bien avant. Donc voilà, en Asie, les saisons ne se passent pas forcément au même moment. En Chine en particulier. Et je voulais aussi rebondir sur des événements, puisque tu as parlé de la politique. Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle pour les Russes que Poutine soit réélu, vraiment pas. Et il faut savoir, même si cette décision a été prise avant le printemps, qu'au mois de mai, Donald Trump va rencontrer Kim Jong-un, ce qu'aucun président américain n'a réussi à faire depuis la guerre de Corée. Donc, et pour moi, c'est vraiment une démarche d'apaisement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle du printemps.
Est-ce qu'on peut parler du coup de printemps russe ?
Alors, je ne sais pas si c'est un printemps russe, mais je pense que Vladimir, en tout cas, quand j'en parle aux rares Russes avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter ici et là, ils sont les premiers à me dire que Vladimir Poutine est ce qu'il y a de meilleur pour la Russie en ce moment. En tout cas, pour défendre ses intérêts, et je ne parle pas des intérêts de Vladimir Poutine, je parle des intérêts du peuple et du territoire russe. Sachant qu'il y a quand même les États-Unis qui tapent dessus, de manière continue, même après la chute de l'URSS. Et petite parenthèse, bon, ça ce sera sans doute l'occasion d'une autre discussion, mais l'OTAN aurait dû disparaître après la chute de l'Union soviétique. Et pourquoi l'OTAN existe encore ? Parce que la menace russe, le danger communiste, n'existe plus. Parce que le danger communiste, avant que la Corée du Nord conquière idéologiquement l'Occident, je pense qu'il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Sachant qu'on peut reprocher quand même beaucoup de choses à la Russie, mais il ne faut pas oublier qu'en termes de puissance, la Russie a un PIB inférieur à celui de l'Italie. Voilà. Et en parlant de bonnes nouvelles aussi, l'Italie a quand même voté récemment, et il y a de fortes chances que son gouvernement la sorte de l'Union européenne.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Ce qui, pour les Italiens, serait une très très bonne nouvelle, vu que l'euro les dessert, vu qu'il est bien trop surévalué par rapport à leur économie. Donc, ils vendent des services au même prix que l'économie allemande, alors que l'économie allemande est la seule en fait à bénéficier de l'Union européenne, puisque du coup elle s'encaisse des marges de manœuvre phénoménales. Mais du coup, c'est comme si elle avait des crédits sur les autres banques centrales européennes, sachant que d'ailleurs, on est dans la zone euro, mais tous les pays ont gardé leur banque centrale. Alors que normalement, il devrait y en avoir qu'une à Bruxelles. Donc,
Can I ask a question about Russia? If we're saying it's potentially the Russian springtime, do we think that Western governments should be congratulating Mr. Putin on his most recent win? Or do, because currently I think everyone is keeping quite quiet. Maybe Trump has congratulated, I think, probably by Twitter. Has anyone, what do you think? Do you think it's the Western government's place to comment at all? Or should you just stick to the diplomatic, yes, well done? Eric.
Alors, je pense que tu as raison dans le fait où les grandes personnalités politiques, les hommes et les femmes d'État, chefs d'État, vont lui le féliciter de sa victoire.
Ouais.
Je pense en catimini, donc ils vont se cacher de le faire même pour pas que les autres le voient. Mm-hmm. Parce que comme le disait tout à l'heure Stéphane, il y a quand même un embargo contre la Russie. Il y a du harcèlement contre la Russie. Pour reprendre quelque chose que j'avais déjà dit hors antenne, on a quand même une grosse propagande anti-russe qui nous vient directement d'Hollywood, c'est-à-dire que les films nous bercent depuis notre enfance, quel que soit notre âge, que l'on ait 30, 40 ou 50 ans, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'Hollywood nous dessert des films où le russe est toujours montré comme alcoolique, méchant, tueur, assassin, tout ce que tu veux.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai que je pense qu'inconsciemment, les gens ont dans leur propre conscience et inconscience le fait que la Russie soit méchante. Mmh. Donc c'est d'autant plus simple pour les médias de descendre la Russie aux yeux du monde entier, ou comme l'a fait l'Angleterre dernièrement en disant à la Russie, il y a des espions russes qui sont morts à Londres. Mmh. Si vous ne prouvez pas le contraire, que ce n'est pas vous, automatiquement c'est la Russie qui sera coupable de ces meurtres. Et sans donner de preuves, sans rien donner. Donc on sent vraiment ce harcèlement, cette Russie qui est sur une sellette au centre du monde, alors qu'on a un Poutine, certes, ex-chef du KGB, mais quelqu'un qui, je pense, aime son peuple et essaye de le guider vers un avenir meilleur, car malgré tout ce qu'on puisse dire, le communisme en tant que tel, comme la troisième mouvance du socialisme, selon Marx, n'a jamais existé.
Ouais.
C'est-à-dire que le communisme, selon Marx toujours, c'est vraiment avoir un État sans chef.
Mmh.
Et donc tout est à tout le monde, un peu comme l'âge d'or qu'on a vécu soi-disant selon la Genèse, avant que l'instinct de propriété existe. Donc c'est un rêve utopique, certes, puisqu'on ne peut pas le faire à notre échelle, parce qu'on n'a pas la sagesse ou l'intelligence de le faire en tout cas. Mais on ne laisse pas l'opportunité à la Russie de faire ce qu'elle peut faire, et même son droit de parole est bafoué, et je trouve ça dommage. C'est comme quand un pays démocratique comme la France empêche un groupe politique quel qu'il soit de s'exprimer, que ce soit sur presse écrite, sur les radios ou même à la télé, parce qu'on trouve que c'est un groupe marginalisé ou marginal. Je trouve que dans une démocratie comme la nôtre, on devrait être beaucoup plus ouvert d'esprit et arrêter de faire de la propagande télévisée pour un ou contre l'autre, en essayant donc de guider les esprits des gens. On ne laisse pas à l'enfant, ne serait-ce qu'à l'enfant, de penser par lui-même. Tu es professeur, Daniel est aussi, on est tous passés par l'école, et on a appris des choses en cours d'histoire qui étaient guidées. Alors on sait très bien que l'histoire est écrite par ceux qui gagnent des guerres, mais il faudrait être beaucoup plus impartial là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, tout simplement, pour ne pas aller plus loin, je pense qu'il serait normal que les gens le congratulent, tout simplement parce qu'il a gagné, parce que ça veut dire que les années qu'il a passées à la tête du pays ont marché, que le peuple le reconnaît en tant que chef et en tant que personne bénéfique pour lui-même. Donc, il mérite les congratulations.
Ouais. Et j'aimerais rebondir justement sur ce qui est les événements de Londres. Tout d'abord, donc, les espions russes assassinés viennent d'un échange avec l'Union soviétique. Ça fait 18 ans qu'ils sont à Londres. Donc, premièrement, ils ne représentaient absolument plus une menace pour la Russie d'aujourd'hui. Et surtout, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine aurait fait ça deux jours avant son élection. Ce n'est pas quelque chose qui puisse le servir. Et encore, autre question, comment se fait-il que Mme Theresa May ait réagi aussi vite pour dire que c'était la Russie qui était l'auteur de ça, alors qu'il n'y a pour le moment pas eu d'enquête ? Il n'y a aucune enquête en cours.
Ben, je vais te répondre comme pourquoi Coluche est mort juste avant les élections, pourquoi DSK a eu une affaire sur le dos avant les élections, etc. Ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Surtout que pour DSK, on apprenait trois jours après que la femme du président était enceinte, n'est-ce pas, Carla Bruni. Par rapport à Coluche, il est mort après les élections, puisque c'était en 86.
Il est mort en 85-86, oui.
Voilà, mais il est surtout mort après avoir créé les Restos du Cœur et après avoir déclaré devant des caméras qu'il y avait des gens qui mouraient de faim dans la rue et que les politiciens ne faisaient absolument rien pour ça.
Oui. Alors, pour confirmer notre émission pro-russe ce soir, on passe une petite musique, un petit clip de propagande qui a circulé sur YouTube cette semaine, qui est un clip qui reprend les... Alors, est-ce que ça sort ? Il y a un truc qui ne marche pas, je sais pas pourquoi.
Non,
on n'est pas en live, mais... ça marchait tout à l'heure, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut faire les deux ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre...
Tu peux faire un peu d'editing, François.
Ouais, alors attendez, hein, je ferai un editing tout